de Francis Chevassu, Visage, Ferdinand Brunetière. Ferdinand Brunetière revint un jour de Rome avec une bénédiction du pape et la cravate de commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand dans sa valise. Il avait prêché sur Bossuet au Vatican devant une assemblée de princes de l'Église, comme Talma interprétait Corneille à la Comédie devant un parterre de rois. Ce fut peut-être la minute suprême de sa carrière. Le succès qu'obtint dans la ville éternelle notre compatriote n'est point pour surprendre. Rome, la Rome moderne, avec ses cathédrales, ses palais et ses maisons de rapport, et où les tramways électriques balaient de la poussière d'histoire, est bien le cadre d'un théoricien qui aime à envisager les choses sous l'aspect de l'éternité et sous l'angle de la polémique. Sa phrase se pare naturellement du Vertugadin et porte sans faiblir la gloire de la papillote. Elle se trouve à l'aise dans les berlines de gala munies de valets poudrés. C'est pour cette raison que, le rencontrant vers le Pont des Arts, à l'époque où il fréquentait dans le quartier, le romancier de peau bouille, dont la muse traîna toujours un peu la savate comme ce torchon d'Adèle, l'interpella en l'appelant « chien-lit de la langue ». Cependant, M. Ferdinand Brunetière n'est point un doctrinaire apaisé que la majesté du cortège assoupit dans les doux chaos d'une allure solennelle. De même que M. de Vogüé, il se plaît au regard historique. Mais il ne se contente pas d'observer le monde à travers la buée d'un songe mélancolique et lointain derrière les vitres relevées d'une portière. Il abaisse le carreau afin d'apercevoir plus exactement le remous et le tumulte de la rue. Au besoin, il descendrait sur le trottoir. Monsieur Brunetière est un homme étonnant. Il évoque assez l'image d'un de ces gardes nobles, immobiles dans la pompe archaïque du costume dessiné par Michel-Ange, qui serait armé d'une carabine Lebel. D'ailleurs, pour être informé sur les progrès de la balistique, l'écrivain de science et religion n'en demeure pas moins attaché aux vieilles disputes d'école qui offrent un vaste champ de bataille. La science est-elle en faillite? La chimie organique se suffit-elle à elle-même? La mécanique céleste ou la géométrie transcendante sont-elles capables d'élucider le mystère dont nous sommes entourés? Voilà les problèmes qui éveillent sa passion et stimulent les merveilleuses ressources de sa stratégie. Les beaux travaux d'approche, les rares mouvements tournants, les rudes assauts, les vigoureux appels de triomphe. On comprend que la curie romaine ait accueilli M. Brunetière avec des égards singuliers. De toutes les recrues qui lui viennent des chefs de la pensée contemporaine, celle-là est sans doute la plus précieuse. Monseigneur Dupanloup disait un jour de M. Jules Simon, en souriant, « Il sera cardinal avant moi. » M. Brunetière n'est pas de ces hommes égarés sur leur véritable vocation qui forcent un prêtre à reconnaître dans l'enveloppement d'un geste, dans la caresse d'un accent, dans l'hésitation d'un regard, la complicité secrète d'un allié, un frère qui s'ignore ou qui se réserve. J'imagine, au contraire, qu'à la fin des dîners romains où l'on honore le Seigneur au moyen de rares volailles et de subtils coulis, ces signes de croix énergiques surprirent d'abord les monsignories qui escamotent un bénédicité distrait en glissant une main molle sur des surplis soyeux. Sa voix, qui déjà éclate dans un fumoir, déconcerta peut-être les familiers de la cour pontificale, la cour du monde où l'on parle le plus bas et où, pour cette raison, le gouvernement de la République envoya un ambassadeur très remarquable et, dit-on, atteint de surdité. Monsieur Brunetière n'est pas né d'église, c'est visible. la perspective d'une belle direction d'âme, une imposante armée de conscience à guider, peuvent séduire un esprit comme le sien, né pour le commandement. Mais il ne montre ni l'humilité du curé de campagne qui poursuit sans bruit le train-train de son sacerdoce, ni la sérénité du chanoine qui accomplit paisiblement sa besogne de propagande, garantie par des douillettes ouatées contre les courants d'air du siècle. On ne lui découvre pas davantage cette patience admirable de sécurité du dignitaire ecclésiastique qui manie la faiblesse humaine comme un virtuose, en pressant d'un doigt discret un ressort subtil de vanité ou d'orgueil et dont les sages lenteurs sont un si bel acte de foi dans l'avenir. Ces grands prélats opportunistes qui se parent de nos misères comme les missionnaires de Chine s'habillent en mandarin excellent dans l'art de différer les solutions avec grâce. L'évêque de Pékin, interviewé par un journaliste, déclarait « Croiriez-vous, monsieur, que sur les 5000 élèves formés par nos pères, nous n'avons pas eu, en 10 ans, une seule conversion ? Est-ce beau ?» Cette diplomatie à longue échéance, qui d'aventure s'attarde dans les sentiers de traverse en savourant des foie gras, comme l'armée de Grouchy le jour de Waterloo mangeait des fraises, cette manœuvre de temporisation qui laisse à la Providence tout le travail ne nourrit point la combativité de M. Brunetière. Il est pressé d'agir par lui-même, de donner son coup de pouce personnel aux événements. Ainsi que les médailles, les événements ont une valeur propre, mais ils portent toujours l'effigie d'un maître. M. Brunetière ambitionnait de les frapper à son image. Pour le surplus, son génie ambitieux nous garantit qu'il s'arrangera ensuite à les faire cadrer avec les desseins du Très-Haut. On a dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. M. Brunetière fit mieux, il rajeunit la Providence. Il s'institua son confident, son tuteur, son directeur de conscience. J'allais dire son impresario. Grâce au crédit exceptionnel dont jouissent toujours les conseillers auprès des souverains en exil. Avant que l'éminent doctrinaire ne prît en main ses intérêts, celle-ci semblait se résigner à l'effacement. En l'amenant à douter de soi, Renan avait énervé sa puissance. Monsieur Janvier de Lamotte m'a raconté la jolie distraction de son doyen de Normandie, qui sur les instances doyes alarmées par 50 jours de sécheresse, avait organisé une procession afin d'attirer l'eau du ciel. Comme on rentrait au presbytère, des gouttes commencèrent à tomber. Le digne prêtre considérait les nuages avec extase. « Il pleut, fit-il. Quelle heureuse coïncidence !» Avec la collaboration de M. Brunetière, la Providence est encore capable d'accomplir de grandes choses. Il lui donnera de l'esprit de suite, de l'ingéniosité, la foi en soi-même, le sentiment de son rôle, mais surtout la notion de l'ordre et le goût de la volonté. N'est-ce point par ses vertus que le célèbre académicien s'impose d'abord à l'admiration ? Ce critique césarien, réduit par les circonstances à gouverner des ombres, a le tempérament d'un homme d'État. Dans l'idéologie, il n'est pas seulement un maître, il est un monarque. De même que Louis XIV, il dirait volontiers « mes belles lettres ». Notez aussi bien comme, sous sa discipline, les créateurs qui ne sont pas toujours dans le secret de leur fécondité viennent se ranger docilement à la place qu'il leur assigna. Ils font presque figure de fonctionnaires, préfets corrects ou somptueux ambassadeurs du génie français, illustrant à leur date et dans leur ordre les systèmes de M. Brunetière. Molière paraît-il ? Il l'attendait. Le sage sort-il du néant ? Sa place était prête. Beaumarchais éclate-t-il ? Sa venue était inévitable. Monsieur Brunetière examine le défilé de ces illustres témoins d'un regard paternel mais sans tendresse. Seules les incartades de l'individualisme ne trouvent point grâce à ses yeux. Malheur à l'imprudent que l'esprit de révolte ou le goût de l'indépendance pousse à s'évader de la règle ou à rompre la solidité de l'armature sociale. Tel que Goethe, à des désordres, il préférait un crime. C'est ainsi qu'il fit comparaître devant son tribunal, en qualité de schismatique, Donia Sol et Marie de Neubourg, et qu'il requit contre Pauline, l'admirable Pauline de Polyeucte, comme entachée de romantisme. Que les rigueurs de cette juridiction impitoyable nous semblèrent tristes parfois. À l'égard de Baudelaire, encore notre pitié ne s'émeut pas trop, il commit d'autre part assez de péchés pour mériter de menus désagréments. Mais l'abbé Jérôme Coignard, poursuivi pour vagabondage, voilà qui alarme notre sentiment de la gratitude. Tenez, pour certains que nous apercevrons sur le banc un de ces jours, M. Joris Karl Wissmann, prévenu d'avoir cherché, aux matines du cloître, des jouissances équivoques. Et ce moine étrange qui laisse émerger des poches de sa robe de bure des épreuves d'imprimerie ne sera pas épargné. On peut détester M. Brunetière. La haine d'ailleurs n'est point un si banal hommage. Trouver son joug insupportable, sa tyrannie impertinente, il ne saurait laisser indifférent. Il est une force, et la force aussi est une grâce chez un homme. Néanmoins, ce virtuose qui soulève, sans apparent effort, des paradoxes considérables, laisse au lecteur subjugué une sorte d'inquiétude. Son prosélytisme est-il l'acte de foi d'un croyant ou le scrupule d'un directeur de conscience, soucieux de ses responsabilités, qui se propose d'assurer, par une obligeante tutelle, notre bonheur sans nous mettre dans la confidence de sa politique. On conçoit que sa nature l'ait porté spontanément vers l'aigle de Meaux. Comme Bossuet avait offert le concours de Dieu à la monarchie absolue, son historiographe apporta l'appoint de la critique évolutive à la Providence. En cette conjoncture, M. Ferdinand Brunetière fut mieux qu'un éloquent moraliste, un habile tacticien. J'imagine toutefois que les succès d'Académie ne doivent pas apaiser sa fougue. C'est dans les luttes violentes du Parlement qu'on souhaiterait le voir dépenser son exubérance oratoire, ses vigoureux syllogismes et sa dialectique impérieuse. Si ceux de ses pairs qui tournent aujourd'hui leur curiosité vers la chose publique semblent avoir des tempéraments de sénateurs, c'est à la Chambre des députés qu'on aperçoit d'abord M. Ferdinand Brunetière comme à sa vraie position de combat.